Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la Bible qui le dit. Il est le même, il n'a pas changé, il ne change pas, il n'est pas capable de changer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Jésus qui est décrit dans les évangiles est exactement le même. Il n'est pas au même endroit, il n'est pas à Jérusalem ou en Galilée, il est au ciel, à la droite du Père. Mais c'est exactement le même homme, Dieu, réuni. Il est comme la Bible le décrit. Il ne s'est pas amélioré, il n'a pas perdu de sa force, de son éclat ou de sa grandeur. Il est exactement le même, parfait, et comme la Bible le décrit. Nous, évidemment, nous ne sommes pas comme ça. Nous, nous changeons énormément. Si vous avez un ami avec qui vous êtes ami depuis peut-être 20 ans, et à un moment, vous êtes en train d'échanger, et il sort une vieille photo. « Ah, tu te souviens, il y a 20 ans, ça c'était nous. » Et on dit « Waouh, qu'est-ce qu'on dit tous ? Qu'est-ce qu'on a changé ? À ce moment-là, j'avais des cheveux bruns. Ou à ce moment-là, j'avais des lunettes, ou j'avais pas de lunettes, ou mes lunettes étaient énormes. » Mais aussi, on constate, j'espère, avec le temps, que notre caractère change. On est devenu peut-être plus patient, moins fougueux, moins fou. D'autres choses changent, bien sûr, chez nous. Alors, parce que nous sommes tellement changeants en tant qu'humanité, nous avons du mal avec le fait que Jésus ne change pas du tout. Et il me semble que ça veut dire que pendant l'histoire de ces 20 siècles qui se sont écoulés, il y a une capacité malheureuse d'adapter Jésus à notre époque. Pas de prêcher Christ à notre époque, mais de changer Christ pour le faire passer dans une certaine époque. Et donc Jésus a, et par le passé, a été présenté comme roi conquérant. On a mis sa croix sur des bannières, sur des drapeaux, où Jésus a été annoncé comme pacifiste contre toute violence, contre toute injustice, contre toute guerre, où Jésus a été présenté comme un enseignant de morale, simplement, du côté des parents, pour dire aux jeunes, c'est pas comme ça qu'il faut vivre. D'autres l'ont repris pour être une sorte de rebelle, un hippie, peace and love, pendant les années 60. Et cette tendance continue jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, peut-être, on a tendance à remodeler Jésus comme un humaniste. Jésus qui voit le bien en l'homme et qui pense que le meilleur qu'on puisse faire, c'est nous épanouir. D'autres présentent Christ comme un sage, comme Confucius ou un philosophe grec, voilà, quelqu'un qui est intéressant à écouter, quelqu'un qu'on peut prendre, on peut prendre ses citations et les mettre sur notre Instagram, et ça fait bien, ça fait sage. Ou peut-être juste un Jésus tolérant, Jésus qui est d'accord avec tout le monde. Mais ce qui se passe là, c'est que si nous commençons à adapter Jésus, à enlever les aspects de Jésus qui dérangent notre société, ou à mettre en avant que ce qui peut peut-être faire écho dans le cœur des autres, ben nous ne connaîtrons plus le vrai Jésus. Et nous allons facilement pécher parce que nous ne serons plus amoureux du vrai Jésus, mais en train d'aimer une copie qui est en fait une fausse sosie de Jésus. Nous avons besoin d'aide dans ces circonstances et nous avons besoin d'aide de quelqu'un qui a connu le vrai Jésus et qui a pris son temps pour nous écrire à travers une lettre qui a été préservée dans la Bible. Je lis dans la première lettre de Jean, donc c'est à la fin du Nouveau Testament, il y a les lettres de Jean, 1er Jean, 2e Jean, 3e Jean, c'est toujours le même Jean, mais il y a trois lettres, puis il y a la petite lettre de Jude qui est quelqu'un d'autre, et puis il y a la lettre de Jean qu'on appelle l'Apocalypse de Jean, où il écrit aux églises pour les encourager dans la persécution. Eux qui subissaient la persécution. Première lettre de Jean, on avait commencé à lire cette lettre il y a 2 semaines, et beaucoup d'entre nous étaient présents. On continue aujourd'hui au chapitre 2. Vous l'avez sous les yeux ? Je signale simplement que les chapitres et les versets ont été ajoutés, bien sûr, tardivement. À la base, c'était juste une lettre, n'est-ce pas, avec des phrases, et il n'y avait pas ces coupures de chapitres. Mais voilà, ça nous aide à nous repérer un peu dans la Bible. Chapitre 2. Mes petits-enfants, je vous écris cela, afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez connu le mauvais. Je vous écris, petits-enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Voilà notre lecture. Il y a 2 semaines, si vous avez eu l'occasion d'écouter ce message, ça vous aidera. Je propose d'écouter celui-là avant celui-ci, mais vous n'avez pas le choix, là, si vous êtes là ce matin. Mais on évoquait avec Jean que le vrai Jésus apporte la vie et le vrai Jésus apporte la lumière. C'est ce qu'il voulait communiquer pour les encourager, les chrétiens qu'il connaissait, à qui il écrivait cette lettre. Et dans la suite, nous allons voir dans ce chapitre, à nouveau, le vrai sauveur, versets 1 et 2, et puis la vie chrétienne, les versets 3 à 11, et puis une vérité rassurante, versets 12 à 14. Commençons par le vrai sauveur. L'accent au début du chapitre tombe sur Jésus. À nouveau, Jean veut recentrer notre regard sur lui. Il est le même, et il est celui qu'il nous faut à cause du péché. Le problème fondamental de l'humanité est celui-là, n'est-ce pas ? C'est le problème du péché qui est un blocage entre nous et Dieu, qui attire la colère de Dieu contre nous, qui fait que nous sommes condamnables. Ce problème-là n'a pas changé malgré les siècles qui se sont écoulés, n'est-ce pas ? Depuis la mort de Jésus à la croix. Qu'est-ce que nous pouvons faire lorsque nous constatons que le péché est une réalité dans notre cœur ? Eh bien, au chapitre 1, verset 8, il avait dit 2 choses que nous ne pouvons pas faire. 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. On ne peut pas dire que nous n'avons pas de péché en nous. Et puis verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Ça, c'est par rapport à notre passé, en disant on n'a pas péché. Donc on ne peut pas nier notre péché. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème de notre péché. Mais le problème est résolu en Christ, qui est présenté ici comme 2 choses. D'abord, l'avocat, il est notre avocat. Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père. Ce mot consolateur, accompagnateur, celui qui vient à côté de nous et qui parle pour nous. Peut-être que quand vous entendez ce mot consolateur ou défenseur, vous pensez au Saint-Esprit. Parce que Jésus avait annoncé que le Saint-Esprit serait le consolateur. C'est le même mot qui est utilisé ici pour décrire Christ. Mais Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Parce que Jésus était lui-même le premier consolateur, vous comprenez ? Donc Jésus part auprès du Père, il est notre consolateur ou notre défenseur auprès du Père, et il envoie un autre consolateur, qui est l'Esprit Saint, son Esprit, qui est en nous et qui parle à notre cœur. Jésus est auprès du Père en train de nous défendre. Et Jésus écrit et décrit ici comme le juste, verset 1, parce qu'il est le seul sans péché. Vous savez, en pensant à Zachée et l'histoire qu'on a entendue ce matin, je pense qu'une des raisons pour laquelle Jésus n'était pas choqué par Zachée particulièrement, c'est que tout le monde qu'il rencontrait était dans le péché. Et donc pour Jésus, il était le seul qui n'avait pas de péché, mais tout le monde qu'il rencontrait était dans la même situation. Il n'allait pas donc faire d'exception en disant « Oh, lui, c'est vraiment un pécheur ». Jésus est notre avocat, il est aussi le sacrifice, verset 2. Et c'est là la solution. Il est la victime expiatoire ou propitiatoire, celui qui rend Dieu propice envers nous. Et justement, c'est parce que Dieu, Jésus-Christ est juste qu'il peut faire cela. Un homme injuste meurt pour ses propres péchés. Il faut un homme juste pour mourir à la place des pécheurs. Et c'est ce qu'il peut faire, mais aussi parce qu'il est Dieu. Jésus peut payer pour nos péchés parce qu'il est Dieu. Parfois on dit, eh bien, j'espère que tu as accepté le sacrifice de Jésus. Mais ce n'est pas nous qui acceptons le sacrifice de Jésus. Eh bien, merci beaucoup pour le sacrifice. Mais c'est Dieu qui accepte le sacrifice de Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes endettés envers Dieu. Dieu exige une rançon. Il faut que quelqu'un paye envers Dieu pour cela. Et c'est Dieu qui accepte que le sacrifice de Jésus est digne, est grand, est suffisant pour nous pardonner, pour nous sauver. C'est parce qu'il a donné sa vie et parce qu'il était divin que cela avait tant de valeur. Ça veut dire aussi que ce que Dieu a fait, le sacrifice vient de Dieu lui-même, c'est qu'il n'a pas puni une personne innocente, un tiers, une autre personne, mais il a puni quelqu'un qui était innocent, qui était de lui, qui était sa propre personne. Il a pris sur lui le coup, la dette. Si, par exemple, Pierre fait quelque chose que je trouve désagréable et que je suis en colère contre Pierre, mais que j'aime Pierre, je ne vais pas aller punir Nicolas. Ça n'a pas de sens. Nicolas n'a rien fait dans l'occurrence. Vous comprenez? Et ce n'est pas comme ça que Jésus s'est offert comme victime. Moi, je suis juste un tiers, je n'ai rien fait, ici je suis innocent. C'est Dieu lui-même qui prend sur lui la dette et qui efface ainsi notre culpabilité. Ça, c'est le sacrifice que Jésus, le Fils, a offert envers son Père pour régler notre problème avec lui. Et c'est une solution efficace, c'est la seule solution, et c'est une solution mondiale. Et donc Jean dit, il est le sacrifice pour nos péchés, et pas seulement pour nous, les quelques chrétiens, grecs ou romains, mais pour tous les chrétiens du monde entier. Il ne dit pas qu'il a réconcilié chaque individu du monde avec Dieu, parce qu'il y aura quand même des gens qui vont être perdus. La Bible dit aussi, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure au contraire sur lui. La question n'est pas est-ce que Jésus a payé pour chaque individu du monde entier, mais est-ce que nous qui sommes dans le monde, nous saisissons que le sacrifice de Christ est suffisant pour nos fautes. N'oublions pas ce moyen unique pour le salut, le vrai sauveur. Deuxièmement, la vie chrétienne. Dans la section du milieu qui est assez longue, on ne va pas regarder beaucoup de détails, mais peut-être que le mot qui ressort le plus souvent, c'est « commandement », verset 3. Si nous gardons les commandements de Christ, et il y a beaucoup d'accent sur les commandements, un commandement nouveau, un commandement que je vous donne, il faut suivre les commandements, etc. Et peut-être que ça vous choque un petit peu. Je pensais qu'on était dans la grâce, on n'est plus sous la loi. Et puis il y a beaucoup d'accent sur les commandements. Comment se fait-il qu'il y a cet accent? Alors c'est vrai que nous pouvons tous être sauvés par la foi seule. J'aime beaucoup le chapitre 10, verset 9 de Romains qui dit « si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Pas si tu obéis aux commandements, si tu fais ceci, si tu fais cela. Tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Oui, c'est comme ça. Mais une fois que nous sommes sauvés, Alors nous avons Jésus comme maître, celui que nous, à qui nous demandons de nous sauver, il devient notre maître. Et effectivement, il nous a laissé des commandements. Et donc, Jean est en train de dire, si nous disons que nous connaissons Dieu, si je dis je connais Dieu, je dois aussi suivre ses commandements. Et l'autre mot qui est assez choquant, je pense, dans ces versets, est le mot « menteur ». Aujourd'hui, on peut dire n'importe quoi, n'est-ce pas ? On peut dire que la phrase n'est pas exacte, que c'est une exagération, que quelqu'un a été au-delà de la vérité, mais on a du mal à dire que quelqu'un est un menteur, n'est-ce pas ? Mais Jean n'hésite pas par rapport à ça, au verset 4, il dit « S'il prétend avoir connu Dieu alors qu'il ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. » Mais regardez ce que dit monsieur menteur. Il dit qu'il connaît Dieu, verset 4. Il dit, verset 9, qu'il est dans la lumière. Et donc, il a un discours qui est vraiment très bien. Il a un discours qui est tout à fait adéquat, en tout cas qui semble être le discours de la foi, mais il n'y a pas la vie qui va avec. Et donc, si nous avons la foi, disons que nous avons la foi, mais nous ne vivons pas avec Dieu, en fait, c'est un mensonge. Il doit y avoir une cohérence entre notre foi et notre éthique, notre façon de vivre. Bien entendu, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont un code éthique. Il ne faudrait pas croire que nous sommes les gens avec des valeurs, avec un code éthique, et que le monde n'a pas de valeurs ou d'éthique. Au contraire, je pense que vous pourrez faire ça cet après-midi. Prenez un bout de papier et vous pourrez noter pour vous-même 10 commandements que le monde prêche. Par exemple, au lieu de dire « tu n'auras pas d'autres dieux », vous pourrez dire ben, « tu auras autant de dieux que tu veux » ou « tu dois être tolérant » ou « tu ne jugeras pas ». Ce sont des commandements que le monde a, n'est-ce pas ? Mais juste faites attention avec cette feuille de ne pas juste la laisser traîner parce que les gens vont dire « oh là là, papa, il a changé, là, et... c'est pas exactement comme ça qu'on avait l'habitude de penser ». Mais vous pourrez facilement faire 10 commandements qui sont le code éthique du monde. Donc la difficulté n'est pas que nous avons un code éthique, mais c'est d'où est-ce que nous tenons notre code éthique. Et nous voulons suivre Christ et ce qu'il nous demande de faire, ses commandements. Et en particulier, le commandement sur lequel Jean met l'accent est le commandement d'aimer notre prochain, notre frère ou sœur en Christ dans l'Église. C'est là qu'il veut vraiment travailler. Ce n'est pas un commandement nouveau, dit-il, et puis il dit c'est un commandement nouveau. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par cela ? Verset 7. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez reçu dès le début. Je pense que les personnes autour de ces lecteurs étaient en train de dire maintenant il faut un christianisme 2.0, il faut une nouvelle forme de christianisme. Et Jean dit en fait, ce n'est pas un nouveau commandement, je ne suis pas dans une improvisation. Ce n'est pas dans une amélioration du christianisme, c'est l'ancien christianisme, c'est toujours le commandement de base. Ce n'est pas une imposition récente, mais nous devons continuer à aimer comme Dieu nous demande, de nous aimer les uns les autres. Lévitique 19, verset 18, « Aime ton prochain », dit-il, c'est déjà dans l'Ancien Testament. C'est la suite normale de la foi. Néanmoins, c'est un commandement nouveau, verset 8, parce que, en écrivant cela, Jésus, cité en Jean 13, 34, et Jean reprend cette parole de Jésus. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » La nouveauté n'est pas le fait de devoir aimer les autres, mais de les aimer comme Christ nous a aimés. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un amour sacrificiel, intéressé par les autres, cherchant leur bien, leur épanouissement, leur progrès dans la foi. Quel amour, et si seulement cela pouvait se manifester de plus en plus parmi nous, ce serait une preuve que nous sommes dans la lumière, notre amour fraternel. Alors on va parler beaucoup plus sur ce thème au chapitre 3 et 4, il revient là-dessus, et vous aurez peut-être le sentiment dans les futures prédications, oui, on a déjà dit ça, on a déjà vu ça, on va revenir sur certains thèmes. Et donc, je ne vais pas dire grand-chose sur l'amour, juste deux choses sur l'amour avant d'arriver à la fin du texte. Une chose toute simple, c'est que c'est facile de trouver des défauts, n'est-ce pas ? Les parents peuvent trouver des défauts chez leurs enfants. les enfants chez leurs parents. Le mari peut trouver des défauts chez sa femme, l'épouse peut trouver des défauts chez son mari. Et les personnes avec qui nous travaillons à l'Église, c'est parfois aussi avec eux qu'on a le plus de difficultés. Il ne réagit pas, ou il réagit trop vite, ou elle manque au rendez-vous, on avait prévu une réunion, on essaye d'organiser quelque chose. La frustration que ça ne change pas assez vite, j'avais proposé quelque chose, mais ça ne se voit pas, ça ne concrétise pas. Ce genre de choses, ça peut être des petits points d'accrochage entre nous lorsque nous travaillons ensemble dans l'Église. Alors attention, c'est facile de trouver des défauts chez les autres, mais il faut quand même s'aimer. Nous sommes appelés à aimer les autres, et ce n'est pas dit que ce serait facile. Il a simplement dit qu'on doit le faire. Nous devons nous aimer dans l'Église, et ça signifie surmonter peut-être certaines difficultés que nous allons rencontrer. Dieu nous appelle à aimer même ceux qui ont des défauts. Et l'autre chose, c'est que si nous aimons quelqu'un, prions pour lui. Prions pour lui. Ce serait bien de prendre non seulement à cœur d'aimer les gens, mais de prier les uns pour les autres dans l'Église, de dire, voilà, je connais tel prénom, on a parlé un petit peu dimanche, eh bien je vais prier pour toi dans la semaine. Parce que la meilleure chose que je puisse faire pour quelqu'un, c'est demander à Dieu d'agir dans sa vie. Et donc si je peux simplement faire ça pour toi, c'est déjà un grand signe d'amour, que je dépense mon temps quand je suis pas avec toi, mais je suis chez moi. Je dépense une partie de mon temps à prier pour toi et que Dieu agisse dans ta vie et te fasse du bien. Ce serait un signe d'amour, n'est-ce pas, de faire cela. Alors développons notre amour l'un pour l'autre aussi dans la prière, comme signe d'amour. On termine par la troisième partie, c'est la vérité rassurante, les versets 12 et 13. Jean a insisté, le vrai sauveur, c'est le Seigneur Jésus, il ne change pas, il ne doit pas être amélioré, il ne doit pas être modifié pour aujourd'hui. Puis il a insisté sur la vraie vie chrétienne, il a corrigé le mensonge de séparer l'éthique et la foi. Si nous sommes chrétiens, si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons aimer les autres chrétiens. Mais maintenant, il veut rassurer les chrétiens. Et cela, c'est au verset 12. Je vais relire versets 12 et 13. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. » Il y a un paradoxe quand on veut reprendre quelqu'un. Malheureusement, souvent, les mauvaises personnes sont déstabilisées. Vous avez un message, comme Jean avait un message, où il dit, voilà, je veux être clair et corriger ceux qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont dans les ténèbres. Mais il y a des gens dans l'Église qui risquent de dire, mais moi, je n'aime pas très bien les autres chrétiens, et j'ai manqué d'amour pour mon frère, et je suis peut-être encore dans les ténèbres. Peut-être que mon cœur est encore dans les ténèbres, je n'ai pas d'amour, l'amour que Dieu met dans notre cœur n'est pas là, et donc peut-être que je suis encore loin de Dieu, je ne suis pas sauvé, et je suis perdu. Vous voyez ce genre de pensée, c'est une spirale, n'est-ce pas, mais c'est une pente savonneuse, on peut vite malheureusement glisser de notre appui sûr. Le verset 12 arrête tout ça. « Vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. » J'aime bien les phrases claires, j'aime bien les promesses sûres. Ça, c'est formidable, n'est-ce pas? Vos péchés sont pardonnés à cause de son nom, parce que Jésus était mort à la croix. Alors, quand nous voyons que le péché est visible, quand nous voyons que le péché se manifeste dans notre vie, et ça nous horrifie, n'est-ce pas, quelque part? On dit, waouh, je suis vraiment comme ça? Quand nous voyons le péché se manifester, rappelons-nous de la réalité du pardon. Le péché est horrible, le péché est réel, mais le pardon est tout aussi réel. Alors Jean écrit à divers groupes ici. Des personnes ont pensé que c'était des groupes d'âge. D'abord, il écrit à l'école du dimanche, les enfants, et puis les seniors, et puis les jeunes. D'autres ont pensé, en fait, c'est les mêmes personnes, mais avec des appellations diverses. Tantôt, il va les appeler enfants, puis après, il va les appeler parents. Alors moi, je pense que quand il dit petits-enfants, au verset 12, ça renvoie à ce qu'il appelle généralement les gens de l'Église. Verset 1, mes petits-enfants. Jean est un papy à ce stade quand il écrit, c'est un homme âgé. Et il est en train de décrire l'Église en général comme ses enfants. Tellement il les chérit et tellement ils sont peut-être jeunes comparés à lui. Mais après, il va quand même faire une différence entre les pères et les jeunes. Et là, je pense que ce sont des chrétiens de différentes durées à l'Église. Écoutez-moi bien. Il y a donc dans les pères ceux qui ont participé à l'Église depuis longtemps. Ils étaient là depuis des décennies. Ils étaient là, en fait, à l'implantation de l'Église dans leur ville, dans leur région. Peut-être que ces personnes-là étaient ceux qui avaient entendu les apôtres, Jean, Pierre ou Paul, prêcher l'Évangile. Donc ils avaient vraiment entendu le message dès le début de la bouche des apôtres. Mais maintenant, leur christianisme semblait un peu démodé, un peu désuet. Et c'est ce qui arrive avec l'âge, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui se passe quand on devient âgé ? Eh bien, on est mal à l'aise avec la nouveauté. La technologie change. Et on se dit, oula, j'ai besoin d'une appli bancaire, je dois mettre ça à jour, je ne peux pas payer mes factures l'ancienne manière. Les choses changent. Les modes de transport changent. Vous n'allez pas prendre une trottinette électrique à votre âge. On vient faire un paiement et il faut un QR code. Et on se dit, mais est-ce que je ne peux pas mettre des sous là-dedans ? Ça ne marche pas avec des sous ? On est mal à l'aise avec la nouveauté. Et vous avez remarqué aussi que le vocabulaire change. Que les jeunes vous disent, ah, mais vous ne pouvez plus dire ça. Tu ne veux pas dire ça comme ça. Il faut dire les choses différemment aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça qu'on appelle ça. Et on dit les choses différemment. Et le bon vieux français que tu as pris tant d'efforts à apprendre ne communique pas aussi clairement qu'auparavant. Et en fait, c'était ce qu'ils étaient en train d'éprouver aussi. Eux entendaient Jésus et disaient Jésus, mais les gens disaient, oui, on va parler de Jésus, mais pas exactement comme toi tu imagines Jésus. C'est bien, ça nous réveille. Ou quelqu'un disait lumière, on va être dans la lumière, mais pas dans le sens sainteté. Ça, c'est l'ancien sens de lumière. Maintenant, on va parler de ça différemment. Donc ils étaient vraiment en train de changer toutes les catégories et ça pouvait apporter à ces personnes âgées un peu de confusion en disant, est-ce qu'on a raison de continuer à croire en notre vieux Jésus qu'on a entendu de la part des apôtres ? Eh bien, Jean coupe court à cela en disant ceci, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Et c'est qui est dès le commencement ? Chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. C'est Christ qu'ils ont connu, le Fils de Dieu qui était dès le commencement. Et donc ils doivent juste continuer avec Christ. Dans ce domaine au moins, il n'y a pas d'amélioration possible. Et il n'y a pas de mise à jour qui est nécessaire. L'ancienne technologie fonctionne très bien, c'est Jésus-Christ. Et donc si vous, aujourd'hui, votre foi, si je peux dire comme ça, ressemble plus aux ailes de la foi et moins aux J'aime l'Éternel 4, vous n'avez pas une appli Bible, vous avez juste une Bible qui plie, continuez comme ça, c'est très bien, vous êtes très bien avec Jésus, avec la Bible. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Et puis il parle aux jeunes. Les jeunes, c'est les chrétiens plus récents. Et là, Jean ne les fustige pas. C'est très intéressant parce que j'aurais pensé qu'après avoir dit aux personnes âgées, vous connaissez celui qui est dès le début, il dirait aux jeunes, alors vous les jeunes, franchement, il faut faire des efforts hein, parce que c'est pas fameux, hein, les jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui. Non, il dit après, je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le mauvais. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'en 20 ans de ministère pastoral, j'ai jamais dit ça à un jeune. Vous avez vaincu le mauvais. Verset 14, aux jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. Vous avez vaincu le diable, ça veut dire. Comment est-ce qu'il ose dire ça ? Ce n'est pas la vigueur de la jeunesse qu'il est en train de louer là en disant « Mais vous êtes vraiment fort, hein, les jeunes, super, comme ça, allez-y. » Mais non. Mais c'est parce qu'eux se sont joints à Christ. Et parce que Christ est victorieux, victorieux sur le péché, victorieux sur la mort, lorsqu'il résiste, et victorieux sur le diable, eh bien, avec Christ, vous êtes victorieux aussi, les jeunes. Et donc, vous n'êtes plus sous le pouvoir du prince de ce monde. Alors oui, il faut se battre. Même les jeunes doivent se battre. La lutte spirituelle est présente. C'est maintenant. Il faut prendre ton casque, ton bouclier, ton épée. C'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas intéressant au verset 14 que la parole de Dieu demeure en vous. On a besoin de la parole qu'elle demeure en vous. Oui, il y a une lutte. Mais c'est aussi parce que la victoire est acquise en Jésus-Christ, et en lui nous serons du côté des vainqueurs. Alors eux avaient bien saisi qui était Jésus. Ils vivaient pour lui. Ils avaient une bonne éducation biblique. Et Jean savait que la réponse pour éviter que la jeune génération soit détournée de Christ par toutes les influences extérieures à l'Église, mais proches de l'Église, pour éviter qu'ils soient détournés de Christ, ils devaient à nouveau présenter Christ par la parole, par la Bible. Et Jean écrit cette lettre à Jean, afin justement qu'il puisse à nouveau voir Christ et dire, bah alors je reste avec Christ, parce que c'est en lui que j'ai la victoire, c'est en lui que j'ai le pardon des péchés, c'est en lui que j'aurai la résurrection, c'est en lui que j'ai tout ce qu'il me faut. Si nos jeunes n'entendent pas la Bible, ne se nourrissent pas de la Bible, si nos jeunes sont dans des activités sportive ou ludique ou spirituelle où on chante et on bat des mains et il y a de l'ambiance, il y a des activités, mais ils ne sont pas en train de vraiment ancrer leur foi dans la Bible, eh bien, ils ne pourront pas se défendre quand les autres leur disent « Ah, mais ton Jésus devrait être un peu plus tolérant. Ton Jésus devrait être un peu plus humaniste parce qu'aujourd'hui, on réfléchit autrement qu'il y a 20 siècles. » Ils ne sauront pas comment se défendre. Mais s'ils connaissent vraiment Jésus, ils vont dire « Non, mon Jésus, il est parfait et il ne change pas. » Et ces versets nous montrent que quelqu'un n'a pas besoin de beaucoup d'expérience, beaucoup d'années de vie chrétienne pour connaître Christ. Il dit « Vous connaissez le Père et vos péchés sont pardonnés et vous êtes forts et la parole de Dieu en vous et vous avez vaincu le mauvais. » Quelqu'un peut être jeune dans la foi et pourtant être solide. Et donc mon espoir pour nous, c'est que nous puissions être des mêmes, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, que nous restions fidèles à ce Christ qui est présenté, qui est celui qui nous sauve, qui est celui qui règne sur nous. Et c'est celui que nous représentons en attendant qu'il vienne nous sauver. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as nourris. Tu nous as aussi montré à quoi nous attendre dans ce monde. Oui, il y a des luttes, il y a des influences extérieures, mais nous voulons continuer simplement avec le témoignage fidèle des apôtres pour te connaître réellement comme tu es. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir voir Christ, comprendre qui il est, et de le louer et de le servir de tout notre cœur. Amen.